sur la Une Télé.
Et à 8h34, la guerre qui reprend de plus belle dans la bande de Gaza. 10 morts tôt ce matin dans de nouvelles frappes qui visaient le sud de l'enclave palestinienne. 470 morts au moins, selon le Hamas, depuis la reprise des bombardements israéliens il y a 3 jours, brisant le cessez-le-feu entré en vigueur il y a 3 mois. Les images d'enfants blessés dans des hôpitaux gazaouis surpeuplés ont fait le tour du monde et ont provoqué l'indignation auprès de nombreux dirigeants, dont le président français Emmanuel Macron, mais pas auprès des Américains qui soutiennent la reprise des raids aériens et des opérations terrestres de l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est sous pression dans son pays. Hier, une manifestation a rassemblé des milliers de personnes devant ses bureaux. Il est accusé de sacrifier le sort des otages israéliens, toujours détenus à Gaza. Il serait une 60aine.
Ça ne concerne pas seulement nos otages, mais aussi des Palestiniens innocents. Regardez le timing. C'est une décision cynique de Benjamin Netanyahou. La seule chose qu'il peut faire pour sauver sa peau, c'est de recommencer la guerre. Il a tellement de sang sur les mains.
He has so much blood on his hands.
Netanyahou poursuit-il la guerre pour rester au pouvoir, pour éviter de comparaître à son procès pour corruption? Pourquoi briser la trêve à Gaza? C'est notre débat du jour et vous posez vos questions. On vous lit, on vous écoute sur WhatsApp 0471 200 500. Pour vous répondre ce matin, Pauline Simonet, journaliste à BFM TV, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et François Gemène, politologue, professeur à HEC Paris et chercheur FNRS à Liège, bonjour.
Bonjour François, bonjour Pauline.
Alors même question à tous les deux, on commence par vous François Gemène. Comment comprendre la rupture du cessez-le-feu qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi avec de nouveaux raids israéliens et des bombardements sur Gaza?
En réalité, je pense que Benjamin Netanyahou n'a jamais eu l'intention de respecter la deuxième phase du cessez-le-feu et qu'il était assez clair dans son esprit depuis le départ qu'après la phase 1 du cessez-le-feu, les hostilités allait reprendre et que donc d'une certaine manière il a aussi roulé Donald Trump dans la farine et que très clairement on sait bien que la question des otages est un point assez secondaire pour lui et que ce qui compte avant tout c'est son intérêt politique personnel. Et donc manifestement l'objectif premier c'était de remettre au gouvernement Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale qui est aussi le leader d'un petit parti extrémiste Force juive, de garder Smotrich, le ministre des Finances dans son gouvernement. C'est-à-dire deux petits partis d'extrême droite qui voulaient que la guerre se poursuive à tout prix. Il sait bien que sans ces deux partis, il n'a plus de majorité et que donc son poste de Premier ministre est compromis. Et je veux dire que toute guerre comporte évidemment son lot d'injustices, mais évidemment celles qui sont les plus injustes et les plus détestables, c'est celles qui sont menées, je crois, au nom d'intérêts politiques personnels. Et je crois vraiment que celle-ci est parmi la plus indigne de toutes.
Ouais, on va revenir là-dessus, sur les motivations personnelles du Premier ministre Netanyahou à poursuivre cette guerre. D'abord sur le timing et sur ce cessez-le-feu, Pauline Simonet. C'est parce qu'on allait rentrer dans la deuxième phase de ce cessez-le-feu que Netanyahou a décidé de reprendre les hostilités?
Ben oui, en fait, il a reporté d'ailleurs le début de cette deuxième phase. Ça aurait dû être au début du mois de mars, hein, de commencer les négociations pour avancer vers la suite. Mais effectivement, il l'avait dit quasiment assez clairement. Pour le coup, il a signé cet accord contraint et forcé. Donald Trump lui a tordu le bras. Mais en fait, dans tous ses discours, il laissait entendre assez clairement qu'en fait, il n'irait jamais jusqu'au bout. Pas question de se retirer de la bande de Gaza totalement. Alors, officiellement, ils disent que ce cessez-le-feu a permis au Hamas, hein, uniquement de se regrouper, de reformer ses troupes, de reprendre des forces et évidemment, ils accusent le Hamas d'être à l'origine de la reprise de ces combats. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient jamais eu l'intention réellement de prolonger cette deuxième phase. Alors, pour des raisons politiques, alors peut-être pas seulement, parce qu'effectivement, c'est pas une colombe qui tout d'un coup se transforme en faucon, hein, il doit partager aussi idéologiquement en grande partie ses volontés de l'extrême droite, cette volonté maximaliste de l'extrême droite. Et puis aussi, il voit que sa population, finalement, même si ce soutien il s'érode, la population, quand il est fort dans la guerre, quand il est violent, eh bien, la population, finalement, globalement, se met derrière le drapeau israélien. Donc, il y a aussi, au-delà de ses motivations personnelles à se maintenir au pouvoir, idéologiquement, un partage de vision avec l'extrême droite.
Ouais. Mais tout de même, sur ses motivations personnelles, François Gemène, vous nous disiez que c'était une guerre, pour le moins, indigne, celle-ci, parce qu'elle était guidée par des motivations personnelles. C'est quoi ? C'est parce que Netanyahou, il a un procès en cours et que tant qu'il reste au pouvoir, tant qu'il mène la guerre, eh bien, il échappe à des poursuites judiciaires. C'est ça la raison de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ?
Alors, il y a deux enjeux. D'abord, il y a l'enjeu des poursuites judiciaires. Il est dans un bras de fer avec l'agence de renseignement israélien, le Shin Bet. Il réclame le départ de son dirigeant, qu'il a d'ailleurs licencié, parce que cette agence de renseignement veut une commission d'enquête à la fois sur ce qui s'est passé le 7 octobre et comment l'armée israélienne n'a pas pu prévenir ces attaques terroristes, et aussi parce que plusieurs membres de son gouvernement sont impliqués dans ce qu'on appelle le Qatar Gate là-bas, c'est-à-dire qu'ils auraient perçu des pots de vin pour promouvoir l'image du Qatar pendant qu'ils étaient au gouvernement. Donc ça, c'est le volet judiciaire. L'autre volet, c'est simplement de se maintenir en poste comme Premier ministre. Comme je l'ai dit, s'il n'a pas ces deux petits partis minoritaires d'extrême droite dans son gouvernement, eh bien son gouvernement tombe, il ne peut pas faire voter son budget et il perd sa majorité.
Ouais, raison de politique intérieure et raison personnelle judiciaire, donc on l'a compris, François Jomène. Un point avec vous, Pauline Simonès, sur la position états-unienne. Tout cela, ça se passe avec la bénédiction des Américains, pourquoi ?
Oui, alors c'est plus compliqué que ça. Ouais. Alors, officiellement, oui, totalement, il y a une coopération avec Washington, avec Donald Trump, coopération totale. Donald Trump et les Américains ont dit à quel point c'est la faute du Hamas si sa guerre reprend, qu'il y aura l'enfer si le Hamas ne libère pas immédiatement tous les otages. Mais en même temps, on voit que c'est compliqué. Hein. Donald Trump n'a pas tellement apprécié le fait que Netanyahou brise ainsi l'accord. Il était quand même censé être le président qui apporte la paix. Et surtout, il y a cette question de la libération des otages, comme pour la population américaine israélienne en grande partie. Il a promis la libération des otages. Il y a des otages d'ailleurs américains parmi ceux qui seraient toujours détenus à Gaza. Et on a vu d'ailleurs récemment que les Américains ont osé aller négocier directement avec le Hamas au Qatar, à Doha, et ça, en Israël, ça a été vraiment un choc de voir que les Américains faisaient ça finalement en catimini, derrière leur dos. Alors, évidemment, Netanyahou n'a pas osé crier et s'insurger contre son allié Donald Trump, mais on sent qu'il y a des réticences aussi du côté des États-Unis et pas forcément un soutien total à 100%. Donc, on pourrait voir si, dans les prochaines semaines, hein, si Donald Trump n'essaye pas, une fois qu'il a un peu lâché le dossier ukrainien, s'il n'essaye pas de forcer à nouveau Netanyahou d'aller aux négociations.
Ouais, le président Donald Trump, qui avait en quelque sorte promis d'amener la paix un peu partout dans le monde, François Jomène, ça risque pas d'arriver avec lui au Proche-Orient. C'est pas Donald Trump qui va imposer la paix à Benjamin Netanyahou.
Ça paraît compliqué. À l'évidence, la première phase du cessez-le-feu avait été un succès diplomatique pour Donald Trump, il faut le reconnaître. Mais là, évidemment, si la guerre reprend, les espoirs s'amenuisent. Je voudrais aussi dire peut-être, François, si vous le permettez, un mot des otages. Le Hamas détient encore une trentaine d'otages israéliens et étrangers. C'est évidemment sa seule monnaie d'échange aujourd'hui. Beaucoup d'Israéliens réclament l'arrêt des hostilités pour le retour des otages. Et un parmi eux me paraît vraiment très important pour lequel je voudrais qu'on ait une pensée ce matin, c'est Yarden Bibas, qui est, vous le savez, devenu un des martyrs de cette guerre. Il était lui-même otage retenu par le Hamas. Il a perdu sa femme chérie, ses deux petits-enfants, Ariel et Kfir, qui ont été massacrés par le Hamas. Et donc, il est devenu un des visages martyrs de cette guerre. Lors de l'enterrement de sa femme et de ses enfants, il y a quelques semaines, tout le pays et tout le gouvernement s'étaient parés de couleur orange en hommage aux cheveux roux des enfants. Et aujourd'hui, il est parmi les manifestants qui réclament l'arrêt de cette guerre, notamment parce que son meilleur ami, David Cuneo, est toujours retenu en otage par le Hamas avec son frère Ariel. Et donc, je suis un peu ému en parlant ce matin, mais je crois qu'il faut quand même mesurer le degré de cynisme qu'il y a pour sacrifier ainsi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des otages qui sont retenus en otage, et pour avoir fait de Yarden Bibas un des visages martyrs de cette guerre, et pour bafouer aujourd'hui sa volonté.
Ouais, émotion, évidemment, dans les deux camps. Hein, dans une guerre, c'est toujours le cas, François Jomène, pour ces otages qui ont été tués ou qui sont toujours retenus à Gaza. J'ai le chiffre, moi, de 58 otages israéliens qui restent à Gaza. Et puis, évidemment, émotion aussi. Et on l'a vu dans les images encore ces derniers jours, pour tous ces civils, ces familles qui sont endeuillées par les frappes israéliennes. Netanyahou dit qu'il reprend les frappes, Pauline Simonet, justement pour obtenir la libération de ces otages. Les manifestants disent qu'il n'en a plus rien à faire de ces otages. Comment comprendre là aussi ? Est-ce que reprendre des frappes sur Gaza, ça permettra de libérer des otages ?
Non, ça c'est vrai que Benjamin Netanyahou et notamment les partis d'extrême droite, les otages, la situation des otages, même quand il y en avait encore plus de 200, c'était vraiment pas sa priorité. Et depuis le début d'ailleurs, finalement, l'opposition principale à Benjamin Netanyahou, c'est pas l'opposition traditionnelle de gauche, c'est vraiment ce forum des familles d'otages, hein, qui très tôt ont dit attention, ça n'a jamais ramené des otages. Il y a eu très souvent dans l'histoire israélienne des otages qui ont été pris par le Hamas notamment, ou par d'autres groupes armés, et jamais des frappes, jamais la guerre n'a permis de les rattraper. C'est toujours la négociation, et ça, Benjamin Netanyahou le sait, mais ça n'a jamais été sa priorité, ni pour les partis d'extrême droite.
La guerre qui reprend donc à Gaza, c'était notre débat du jour. Merci à vous deux pour votre regard, votre analyse sur ce conflit qui dure encore et toujours. Il y avait François Jemène et Pauline Simonet.